Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard.
Bonsoir, bonsoir André.
C'est Attaque.
Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle tous les 4e vendredi du mois sur Radio Résonance 96.9.
Et que dit-on chez nous ?
Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique. Parfaitement.
Au cours de cette émission, nous commencerons par une séquence d'actualité, puis nous entendrons notre ami Louis-Claude.
Aujourd'hui, nous recevons Patrick Lefranc du syndicat Sud Santé et co-secrétaire de Sud Solidaire du Cher, et Jean-Pierre Iacono de Sud PTT, avec qui nous parlerons de la Poste, des prud'hommes et de l'état de notre système de santé.
Enfin, après le livre du mois, nous terminerons avec l'agenda militant, le tout entrecoupé de chansons.
Bon alors, André, quoi de neuf dans l'actualité ?
Eh bien, suite à l'assassinat de Samuel Paty, Attaque 18 a publié le communiqué suivant. Vendredi dernier, un professeur a été assassiné devant son collège pour avoir enseigné à ses élèves la liberté d'expression et, son corollaire, l'esprit critique. Par-delà l'indignation et la colère devant cet acte abject perpétré au nom d'une religion, Attaque 18 réaffirme son attachement indéfectible à la laïcité telle qu'elle s'exprime en France depuis 1905. L'État ne reconnaît aucune religion, mais garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, l'expression publique de ses croyances et des critiques qu'elles peuvent susciter. Il garantit donc la liberté d'expression, sauf incitation à commettre des crimes ou des délits, comme des propos publics racistes ou sexistes. Mais le blasphème n'est plus un délit depuis 1905. Cette liberté d'expression, quoique biaisée par la mainmise de milliardaires sur les grands médias, peut seule assurer la confrontation pacifique des idées, fondement et conditions nécessaires de la démocratie. L'enseignement de ces valeurs doit être une mission prioritaire de l'école et ne saurait se réduire à un simple exposé. Sa mise en œuvre concrète relève de la liberté pédagogique de l'enseignant dans le respect de la déontologie professionnelle et de la loi. L'islamisme doit être condamné pour ce qu'il est, une idéologie totalitaire potentiellement criminelle. Mais nous refusons le piège que nous tend l'extrême droite qui assimile les musulmans aux immigrés et aux terroristes, alors que l'islam est devenu, par son effectif, la deuxième religion des Français. Fin de communiqué.
Oui, c'est pourquoi il faut dénoncer et combattre les intégrismes religieux. Tous les intégrismes. L'islamisme tue en France, mais encore bien plus chez les musulmans eux-mêmes. L'intégrisme hindouiste tue en Inde. L'intégrisme juif tue en Palestine, l'intégrisme bouddhiste tue en Birmanie. Bon, quant aux chrétiens, ils ont largement montré par le passé ce dont ils étaient capables. Ce n'est pas l'islam qu'il faut condamner, mais ceux qui tuent en son nom.
Il y a quelques jours, la présidente du Secours populaire décrivait sur France Inter les ravages sociaux de la crise sanitaire chez les travailleurs précaires, le plus souvent des travailleuses d'ailleurs, dont les missions d'intérim ou les CDD n'ont pas été renouvelées, amenant une forte augmentation des distributions alimentaires. Et elle rapportait les propos d'une petite fille. « Parfois, je dis à maman que je n'ai plus faim, pour qu'elle puisse manger. » On en est là, en France, en 2020, alors que les actionnaires du CAC 40 continuent à s'engraisser. L'ONU a publié la liste de 112 entreprises qui ont des activités dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Activités illégales d'après le droit international. En représailles, le gouvernement de Netanyahou ne renouvelle pas les visas des employés du Haut Commissariat aux droits de l'homme opérant dans les territoires occupés. Ce qui équivaut à une expulsion à l'expiration du visa. On voit en quelle estime ce gouvernement tient les droits de l'homme. raison de plus pour soutenir la campagne boycott, désinvestissement, sanctions.
On va finir cette rubrique sur une note plus drôle. Selon le journal Le Parisien, dans son numéro du 12 octobre, le président Macron aurait dit « Je ne suis jamais en retard, puisque rien ne doit commencer sans moi. » Ah, on pourrait lui citer le roi Louis XVIII, qui regardait souvent sa montre et disait « L'exactitude et la politesse des rois. » Oui, mais Jupiter sur son Olympe n'avait pas de montre et il était au-dessus des rois.
Et maintenant, c'est à toi, Louis-Claude, pour ta chronique.
Et à Jeanne-Marie aussi, pour des commentaires, bien sûr. Oui, alors, vous avez certainement noté la propension médiatique à nous abreuver de données chiffrées. L'objectif est évidemment d'affirmer que l'information est scientifique et objective, puisque chiffrée. Alors, jouons le jeu. En 2019, 150 femmes ont été assassinées par un proche, mari, compagnon, ex, enfin tout ce qu'on voudra. En 2020, nous en étions à 39 le 15 juillet, soit un rythme de 73 pour l'année au lieu des 150. Donc a priori, cette année devrait voir le nombre de féminicides divisé par deux. Net progrès, certes, scientifiquement prouvé, ajouteraient nos experts médiatiques, mais dont on ne saurait évidemment pas se satisfaire. Il n'y aurait encore qu'un assassinat de femme en France pour la seule raison qu'elle est une femme, ce serait toujours inadmissible. S'en tenir à évaluer numériquement un progrès dans un tel domaine est pour le moins déplacé, sauf toutefois à le mettre en relation avec des mobilisations internationales qui montrent leur efficacité. En d'autres termes, il faut continuer à expliquer, refuser, sanctionner, manifester, interpeller.
Ah oui, mais n'oublions pas que la violence n'est pas toujours meurtrière. Et dans ce cas, elle est moins apparente dans les statistiques. Ça ne la rend pas admissible pour autant. Quant à l'égalité, il faut la construire en parallèle. Et vivement qu'il ne soit plus nécessaire de parler des progrès.
Oui, certainement. Hein. Alors, mais allez, continuons avec d'autres données chiffrées. Celles des accidents du travail. On n'en entend jamais parler, et pourtant, elles sont absolument effarantes. Accrochez-vous.
Oui, accrochez-vous. En 2018, on compte 651 000 accidents du travail ayant entraîné la mort de 550 travailleurs. En 2019, ce sont 655 000 accidents du travail qui ont été recensés. Donc, peu d'évolution d'une année à l'autre. Bon, en résumé, ce sont 1800 accidents du travail qui se sont produits chaque jour en 2019. Le nombre de décès annuels varie peu, de 514 à 558 ces dernières années, et 551 en 2018. Et encore, faut-il y ajouter les décès pour les accidents de trajet, et ceux liés aux maladies professionnelles reconnues. Et on arrive alors au total d'environ 1100 décès annuels liés au travail.
Alors, compte tenu du silence assourdissant qui accompagne ces données, un expert en arithmétique médiatique pourrait froidement affirmer qu'une femme vaut plus que 7 ouvriers. Cet exemple polémique pour montrer que les mathématiques ne sont pas toujours un bon moyen d'appréhender une réalité et peuvent même conduire à des absurdités grossières. Alors prudence, prudence en face des chiffres qu'on vous envoie chaque jour. Et puis allez, continuons. Je n'ai pas trouvé le nombre de décès par accident du travail de l'année 2019, mais j'ai trouvé deux autres données qui prouvent, de manière scientifique bien entendu, que les travailleurs qui ont des accidents du travail sont une incroyable nuisance pour les entreprises. À tel point qu'il est permis de se demander si les travailleurs ne feraient pas exprès d'avoir des accidents, voire d'en mourir, rien que pour ennuyer les actionnaires et les patrons. Jugez plutôt. En 2018, ce sont près de 44 millions de journées de travail qui ont été perdues par les entreprises, soit environ l'équivalent donc de 200 000 emplois temps complet, temps plein. Alors, il ne faut pas oublier qu'en notre système néolibéral, chacun est responsable de son sort. On peut donc affirmer que la responsabilité de l'accident incombe à l'accidenté et pas aux conditions de travail.
Ah ben oui, c'est une belle absurdité là, en effet. Mais c'est quand même curieux. Si l'on réussit à évoluer favorablement dans le domaine des féminicides, on constate la permanence dramatique de la situation des accidents du travail, année après année, à un niveau largement ignoré. On peut donc se demander pourquoi ce silence ? Ben, peut-être que les journalistes des grands médias n'encourent pas de gros risques dans le quotidien de leur métier et ne se sentent que bien peu concernés.
Oui,
et
puis il faut dire que la situation de la médecine du travail ou la manière dont sont traités les inspecteurs du travail qui osent se préoccuper du problème, ou encore la suppression de fait des CHSCT, les commissions hygiène, sécurité et conditions de travail, ne permettent certainement pas de mettre au jour la dangerosité des conditions de travail dans le pays.
Ah oui, ben puis enfin, on peut quand même pas créer de l'émotion 1800 fois par jour dans nos quotidiens.
Ça manque un peu d'hémoglobine, effectivement. Bon, allez, nous n'allons pas terminer cette émission sans y ajouter une petite note d'optimisme en relation avec le confinement et la pandémie.
Ah bon, parce que le confinement et le cas de Covid-19, là, ça t'inspire de l'optimisme à toi?
Oui, certes, mais pas pour toi ni pour moi. Pour les actionnaires du CAC 40. Allez, un exemple, Total, une entreprise franco-internationale de premier de cordée, en quelques chiffres. Elle a reçu des moyens sous forme de baisse des impôts de production, d'intervention des banques centrales et de plans sectoriels. En remerciement pour notre générosité, Total a versé près de 7 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Total va supprimer 1150 emplois en France. Total nous a gratifié de plus de 450 millions de tonnes de CO2 cette année et par ailleurs crée 168 filiales dans les paradis fiscaux afin de minimiser ses impôts. Ça peut rendre les riches un peu plus riches. Et d'ailleurs, ils le méritent bien au vu des efforts qu'ils consentent pour la France et ses emplois ou encore pour la planète.
Ah, les paradis fiscaux. C'est dans une de ces îles qu'on trouve plus de sièges sociaux que d'habitants.
Exact.
Ah oui, mais vraiment, tu sais, ça ruisselle. Hein, et tu en as beaucoup d'autres optimismes à nous présenter?
Oui, plein. Environ 1% des Français. Les actionnaires de Sanofi qui verse près de 4 milliards d'euros de dividendes. Ceux de Renault, qui va licencier 15 000 collaborateurs, dont 4 600 en France. Les actionnaires de Michelin, qui nous larguent quelques 143 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ou encore les actionnaires de Danone, qui n'a, pauvre, que 94 filiales dans les paradis fiscaux.
Ah oui, oui. Mais tu crois qu'il y a beaucoup d'étudiants, de fonctionnaires, de soignants, de caissières, d'éboueurs parmi eux? Si ça ruisselle, ça devrait leur arriver, hein. Et la presse devrait nous informer aussi, non?
Sans aucun doute. D'ailleurs, comme disent les journalistes à la mode, la presse est un contre-pouvoir. Elle est contre le pouvoir. Elle est vraiment tout contre le pouvoir. Tellement contre le pouvoir qu'on peut parfois se demander si elle peut garder ses distances. Et comme le gouvernement nous le dit quotidiennement, quand on échange des caresses, si l'un ou l'une attrape un virus, l'autre ne sera pas épargné. Tiens, par exemple, le virus du néolibéralisme que Reagan et Thatcher ont refilé à une grande partie de la planète, eh bien, sa pandémie a déjà fait un nombre de victimes bien supérieur à celle du Covid-19.
Ah oui, oui, il faut vraiment qu'on trouve une thérapie et un vaccin pour s'en débarrasser.
Et pour la France des couleurs, tout le monde fait yeah, yeah. What up is going down? Dribbling champion, Big Ali, New York City in the building. We're spreading love. All the colors of France, we need you to unite, stop the fight, let's go!
On veut notre identité, on a longtemps hésité, on est la même entité. Égalité, fraternité, on mérite mieux que ces cités, l'avenir c'est la mixité.
Avançons sans douter, la main dans la mienne. quadrilles, des couleurs.
France des couleurs défendra les couleurs de la France.
Vous écoutez Radio Résonance 96.9 et c'est l'émission mensuelle d'Attaque 18.
Nous écoutons maintenant l'entretien que nous ont accordé Patrick Lefranc et Jean-Pierre Iaconeau du syndicat Sud Solidaire.
Bon, eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec Patrick Lefranc qui est co-secrétaire de l'US. Du syndicat solidaire et également à Sud Santé. D'autre part, Jean-Pierre Iaconeau, qui est à Sud PTT. Bon, c'est dire qu'on va parler des services publics. Peut-être, Jean-Pierre, tu peux commencer à nous dire quelques mots sur ce qui se passe à La Poste.
Alors, La Poste, en ce moment, est en complète restructuration. Donc, elle a annoncé quand même son plan qui part de 2020 jusqu'à 2030. Alors, ce plan consiste déjà à moins de bureaux de poste, c'est-à-dire que tous les agents qui vont partir en retraite ne sont plus remplacés, donc une suppression de postes. Aussi au niveau des restructurations, donc la Poste va mettre en place d'ici 2025 2000 maisons France Service. Alors qu'est-ce qu'une maison France Service ? C'est une maison France Service va être composé donc de la Poste, de la CAF, de l'EDF, des impôts et quelques autres services publics. C'est-à-dire qu'un usager qui rentrera dans ce bureau de poste pourra soit faire une opération postale, soit pouvoir travailler sur l'EDF, sur consulter son compte EDF, consulter les finances publiques, faire plus d'autres opérations.
Bon, à la limite, dans des petites communes, c'est peut-être une bonne chose. Où est le danger, là ?
Donc, dans une petite commune, c'est sûr que ça sauve un bureau de poste. Mais faire ça en ville, je pense que c'est à l'avenir la destruction de services publics.
Donc ça veut dire que même si ça peut être utile dans une petite commune, est-ce que laisser ça aux mains de la Poste qui a vocation, si on ne fait rien, à être privatisé, est-ce que ce n'est pas finalement délégué à une entreprise privée des services publics ?
Oui, tout à fait, c'est ça, c'est l'avenir. Et je pense que d'ici 2025-2030, ça sera le cas.
Bon, donc il faut se bouger. Ceci dit, une structure de cette nature qui serait une structure communale, par exemple, oui, permettant l'accès local à tout l'ensemble des services, ou beaucoup de services publics, serait sans doute une bonne chose.
Ah oui, tout à fait.
Mais encore faut-il l'organiser.
Voilà.
D'autre part, l'argument qu'on donne pour la réorganisation de la Poste et la fermeture des bureaux, c'est qu'il y a de moins en moins de courriers. Oui. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai et dans quelle mesure est-ce que c'est un argument fallacieux ?
Bon, c'est sûr que le courrier a baissé, mais je pense que c'est pas les chiffres que la Poste donne. Je pense qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Mais c'est sûr que la Poste part du principe que le courrier baisse. Mais d'un autre côté, on a une grosse augmentation au niveau du colis. Donc je pense que la Poste, ce qu'elle veut, c'est déjà avoir une masse salariale beaucoup moins élevée. Avec quand on voit que maintenant l'État est minoritaire dans le groupe La Poste, avec l'entrée de la Caisse des dépôts, l'entrée de la CNP, compagnie d'assurance, donc l'État maintenant est minoritaire. Donc, je pense que le but de La Poste dans les années à venir, c'est déjà de minimiser déjà sa masse salariale.
Oui, c'est-à-dire en fait d'avoir la gestion d'une entreprise privée qui vise le rendement financier maximum.
Voilà, le financier à...
Oui, d'autant plus que j'avais entendu dire par, ben, je crois, un postier que si le courrier diminuait, par contre, les recommandés, eux, augmentaient.
Oui.
Or, distribuer une lettre ordinaire, c'est quelques secondes. À recommander, c'est plusieurs minutes.
Ouais. Alors, ce que le facteur fait de plus en plus, parce qu'il n'a pas le temps déjà de monter chez le client pour faire signer le recommandé, c'est-à-dire qu'il avise le client directement au bureau de poste. Il n'a plus le temps de se présenter chez le client, malheureusement, voilà.
Il faut préciser que, suivant un logiciel qui a été préparé il y a des années, mais dont il n'arrive pas à retrouver la trace, un facteur a 1 minute et demie, quel que soit le parcours, quelle que soit la tournée, que ce soit une tournée urbaine ou une tournée rurale, 1 minute et demie pour délivrer son recommandé.
Voilà, donc c'est vraiment, tout est compté, quoi.
Oui, enfin, c'est une logique purement gestionnaire et comptable, complètement idiote.
Mmh. Ah, tout à fait. Ouais,
mais c'est... Qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité.
Voilà.
Bon, ben voilà, déjà le premier exemple de dégradation du service public. On a l'habitude depuis pas mal de temps maintenant. Patrick, je crois que tu vas nous parler de ce qui se passe rapidement, de ce qui se passe au Prud'homme.
Oui, alors la justice, c'est pas un secteur qui est privilégié. Et plus particulièrement dans le secteur justice, ça fait un certain nombre d'années que les prud'hommes sont déjà malmenés. Si on peut rappeler rapidement ce qui s'est passé, suppression des élections, les dernières élections ont eu lieu en septembre 2008, soi-disant parce que ça coûtait trop cher. Le rappel de la période Dati, où des conseils de prud'hommes ont été supprimés, en ce qui concerne le département du Cher, le conseil de prud'hommes de Vierzon. Les prud'hommes sont une instance gratuite, mais à un moment donné, les clients, enfin ceux qui voulaient se pourvoir, devaient payer 35 euros. Pourquoi ? Pour financer la présence des avocats dans les gardes à vue. Ils avaient prévu ça dans les textes, mais ils n'avaient pas prévu le financement. Puis une dernière chose peut-être, il y a eu l'hypothèse d'un échevinage, c'est-à-dire l'introduction d'un juge de métier dans tous les conseils prud'hommes. Le souci, c'est qu'il n'y a pas assez de juges et que les juges qui sont là, ils ont déjà suffisamment de travail pour eux tout seuls. Donc ça ne s'est pas fait.
Il faudrait peut-être rappeler ce que sont les tribunaux de prud'hommes et comment sont nommés les juges de ces tribunaux.
Alors les conseils de prud'hommes, c'est une organisation paritaire, employeur. Deux juges salariés, deux juges employeurs à chaque audience.
Donc ils sont élus.
Une présidence qui est tournante, un juge salarié assure la présidence une année, un juge employeur l'année suivante. Autrefois, oui, ils étaient élus. Maintenant, ce sont des candidatures qui sont proposées par les syndicats en fonction de la représentativité du syndicat.
Et qui choisit parmi ces candidats ? Ils sont là, il n'y a pas de choix politique derrière, quoi. Ils sont les syndicats présentent des candidats et ils sont pris.
Oui.
D'accord.
Oui, ce sont les syndicats
donc,
qui font le
d'accord.
Qui valident les candidatures.
Ouais.
Après, c'est soumis au choix de la préfecture, quoi.
Ouais, donc la préfecture peut quand même exercer un tri parmi les candidats présentés par les.
En justifiant.
Ouais. Donc, alors qu'avant ils étaient élus, purement et simplement.
Avant, ils étaient élus.
Ouais. Donc c'est déjà une régression effectivement. Il y a eu un mouvement de grève, je crois, dans les prud'hommes maintenant.
En ce qui concerne les derniers événements, oui, le 1er septembre, il y a eu par décision des conseillers prud'hommes, des juges prud'hommes en assemblée générale, une suspension des audiences. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que le nombre de postes administratifs diminue. Le 15 septembre, il y a une ouverture d'un poste de greffier en compensation de deux départs. Deux départs, un seul poste de remplacé. Il y aura 1,8 équivalent temps plein de greffier au lieu de 2,8. Donc un poste de perdu. Il manque encore, en plus de ça, un temps plein d'agent administratif.
Oui, rappelons quand même que la justice, pour fonctionner, a besoin de personnel administratif, hein, voilà. De greffiers, de secrétaires, etc. Et là, dans les prud'hommes comme ailleurs, ce nombre de personnel administratif diminue.
Le 20 octobre, c'est-à-dire demain,
ouais.
Reine Aletti, qui est présidente du conseil des prud'hommes pour cette année, rencontre les chefs de cour pour voir ce qui est possible ou pas en matière de création
ouais.
création de postes et de fonctionnement.
Oui, de voir qui on va déshabiller pour habiller qui quoi.
Le 26 octobre, ils font une nouvelle assemblée générale. Et au 1er novembre, parmi les C, ils auront un poste de greffier.
Eh ben,
il faut dire pour terminer que malgré toutes ces misères, qui ne datent pas d'hier, au Conseil de Bourges, un dossier, c'est à peu près, en moyenne, 7 mois et demi. Ça dure, c'est le bouclé au bout de 7 mois et demi. Alors que dans le même temps, ça c'était les chiffres pour 2018, alors que dans le même temps, toujours en 2018, en national, la moyenne était de 17 mois.
D'accord. Bon, eh ben écoute, on va maintenant, après la justice, on va voir un autre service dévasté, la santé.
Eh ben, on connaît les problèmes permanents de l'hôpital, on sait pourquoi il ne marche pas, encore qu'on ne soit pas tous d'accord sur les raisons, puisqu'on a entendu le président de la République, Emmanuel Macron, dire que la raison principale du mauvais fonctionnement de l'hôpital, c'était pas un manque d'effectifs, mais un manque d'organisation. Et qu'il suffisait de redistribuer les moyens pour que ça fonctionne mieux.
Ah ben c'est pas mal ça. Et il a dit ça après les beaux discours qu'il avait fait au mois de mars.
Oui. Dans la coordination nationale des infirmiers et infirmières, là, elle met en avant que malgré la crise que traverse l'hôpital, malgré le coronavirus, il va y avoir des coupes budgétaires qui vont continuer à tomber.
C'est-à-dire qu'on continue comme avant.
Voilà.
On a vu ce que ça a donné au mois de mars, avril, mai, avec l'afflux de malades, avec le manque de moyens.
Voilà.
Eh ben, on continue comme avant.
Il y a bien des ouvertures de lits qui sont temporaires, déjà, qui ne sont pas pérennes.
Oui.
Mais sans forcément qu'il y ait le financement des personnels qui devraient aller avec.
Oui, si on a du matériel et si on a personne pour l'utiliser, ça paraît quand même un peu drôle.
Mais c'est dans la logique continue de tous les gouvernements qui se sont succédés. La coordination rappelle que, par exemple, dans les 30 dernières années, ce sont quand même 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés.
D'accord, 100 000 lits, rien que ça. Alors c'est vrai peut-être qu'il y a de plus en plus de soins qui peuvent se faire en ambulatoire, mais quand même, ça ne justifie pas une telle diminution.
Qu'il y ait autant de personnes que cela de prises en ambulatoire, enfin, autant que la suppression de lits, ça reste quand même à vérifier.
Et peut-être est-ce que, moi j'ai des cas en tête, de gens qu'on a renvoyé chez eux, alors qu'on aurait pu penser, il y a seulement quelques années, qu'ils auraient été gardés peut-être une journée ou deux, quoi.
Oui, il y a ça aussi.
Donc, encore un exemple de dévastation dans ce domaine-là. Tu as d'autres exemples à nous donner, là ?
La coordination nationale fait la remarque que la dette des hôpitaux sera reprise en partie, c'est une promesse du gouvernement, mais cette reprise se fera sous condition, à condition d'assurer l'équilibre financier. Et cet équilibre financier, il se fera par des nouvelles restrictions. Une chose aussi qui est un peu bizarre, c'est la création d'un forfait de 18 euros à payer pour les personnes qui passeront par les urgences sans que cela soit suivi d'une hospitalisation. C'est pour décourager les gens qui viennent aux urgences pour la bobologie, quoi, comme on dit. Voilà, c'est ça.
Oui, mais... Comment, même pour la bobologie, comment on fait à 10h du soir quand les pharmacies sont fermées et que les médecins ne sont plus accessibles?
Voilà. Ouais.
Donc là, ça pose quand même un problème Ben oui, d'accès aux soins, finalement, même pour des choses qui, effectivement, ne sont pas forcément graves. Mais d'un autre côté, parfois, les patients ne sont pas médecins et ils ne peuvent pas eux-mêmes mesurer la gravité de ce qu'ils ont. Et donc, ils ont parfois tendance peut-être à aller aux urgences, alors que, bon, pour un médecin, ça ne serait pas quelque chose de très grave.
Oui.
Mais eux, ils ne le savent pas. Il y a eu quand même, la semaine dernière... un fait assez grave à Bourges. On a quand même fermé les urgences pendant une partie de la nuit. Hein.
De mémoire, c'est la première fois depuis l'aventure du coronavirus. Et c'est au moins, si on recule un peu dans le temps, c'est au moins la troisième fois que l'hôpital Jacques-Cœur, qui est l'hôpital de référence du département, et qui devrait donc fournir tous les moyens aux autres hôpitaux considérés comme annexes, et ça, c'est au moins la troisième fois que ça marche en sens inverse. C'est-à-dire que c'est Saint-Amand, c'est
Vierzon
qui donne les moyens que l'hôpital Jacques-Cœur n'a plus.
Oui, effectivement, là encore, on marche sur la tête.
Et on entend des phrases bizarres du style « mais c'est exceptionnel, donc ça ne veut rien dire ».
C'est exceptionnel, ça n'a pas à devenir exceptionnel, ça n'a pas, ce sont des exceptions qui n'ont pas lieu d'être. En clair, ça peut se traduire par des morts, ça. Bon, des morts exceptionnelles, d'accord. Si on est concerné, si on est l'exception, on n'appréciera pas forcément. Merci Patrick. Et puis, savoir que si on veut que les choses changent, il faut se bouger. Sinon, elles ne changeront pas et elles s'aggraveront. Allez, à une prochaine fois.
Avant, la vie était si triste. Une vraie pénurie communiste. Quand je cherchais le numéro. Pas de choix, pas de liberté. J'étais obligée d'appeler le tout.
Oh oui, le
tout. Le tout,
rien que le tout.
1, 2, 3, 4.
Et puis le soleil s'est levé. La concurrence, la liberté. Tous les numéros ont leur place. Comme on le tombe à Las Vegas. Quand je cherche un numéro, la boulanger, la dermatologue, je suis client, je suis le roi, de mon portable ou de chez moi, j'appelle.
Vous êtes sur Radio Résonance 96.9 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Acta 18.
Bon alors André, qu'est-ce que tu as retenu de tes lectures ce mois-ci ?
Eh bien, le livre dont nous allons parler est assez particulier. Déjà par son titre, qui fera sursauter les historiens. Manuel d'histoire du futur. Il est publié par Attaque France aux éditions de l'Atelier. Il est particulier aussi par ses auteurs. C'est le fruit du travail de 45 contributeurs s'appuyant sur l'expertise et les propositions de plus de 80 organisations. Et il ressemble en effet à un manuel d'histoire géo de lycée. Comme un manuel, c'est une source d'informations très riche, mais simple, claire, précise, grâce à des cartes, des graphiques, des tableaux, des textes toujours très courts.
Conformément à son titre, le livre commence par une introduction où les auteurs imaginent tout un tas d'événements et de situations qui pourraient survenir d'ici à 2030. En mal, comme par exemple l'élection de Marine Le Pen en 2022 ou l'instauration d'une écolo-dictature en Chine, ou en bien, comme l'annulation partielle des dettes publiques, une réforme démocratique de l'ONU, ou encore les pays d'Europe du Sud et les États-Unis rompant avec le néolibéralisme. Alors, ce ne sont pas des prévisions, bien sûr, hein, les auteurs ne jouent pas à Madame Soleil, mais c'est un moyen de susciter l'imagination pour construire un autre futur. Bon, ceci dit, on n'est pas obligé d'entrer dans cette démarche. L'ouvrage comporte 5 parties. Écologie, démocratie économique, égalité, liberté et démocratie, solidarité, dans lesquelles sont regroupés les 30 chapitres du livre, traitant de bon nombre de questions qui se posent à notre époque. En voici quelques-unes.
Hein. Oui, première partie, écologie.
Eh bien, premier chapitre, vers la justice climatique. Le deuxième, connaître et préserver la diversité du vivant, satisfaire les besoins essentiels, l'agroécologie pour bien se nourrir. L'énergie en transition, libérée de la finance. Et les transports, eh bien, des transports de qualité et soutenables. Bah oui, c'est faisable.
Deuxième partie, démocratie économique.
Alors, les communs, nouvelle organisation sociale, on en parle beaucoup en ce moment. Mais il faut aussi une planification écologique, donner un nouveau sens au travail. Et puis, une mondialisation radicalement différente, une mondialisation coopérative et solidaire. Bon, utopique peut-être, mais bon, il faut l'affirmer quand même. Et puis aussi une finance au service de la société.
Et troisième partie, égalité.
Et une justice sociale et fiscale, hein, ça va peut-être commencer par là. Un logement digne pour toutes et tous. Mettre fin au racisme et aux discriminations. Et puis des sexualités à égalité.
Et quatrième partie, liberté et démocratie.
Et ben, une démocratie vraiment participative. Ah tiens, aussi l'émancipation numérique, hein, ça c'est... On est assez empêtré là-dedans maintenant, il faudrait peut-être s'en libérer un peu. Des médias au service des citoyennes et des citoyens, des libertés fondamentales garanties, pour une justice de réinsertion, plus que de répression, une laïcité retrouvée.
Et enfin, la cinquième partie, solidarité.
Eh ben, au niveau international, une dynamique de paix, des relations internationales solidaires, et puis, chez nous, une école de la réussite pour tous les enfants. La culture pour l'épanouissement de chacune et de chacun. Quant à la santé, eh ben, la santé, ça peut être un bien commun. Et puis, pour finir sa vie, un système de retraite juste. Bon, on voit qu'avec ce livre, on traite énormément de sujets, on englobe et on survole beaucoup de choses. C'est quand même quelque chose d'assez simple à utiliser, parce que chaque chapitre, hein, et on les a cités, pas tous, mais pas mal d'entre eux, chaque chapitre commence par la description de ce qui pourrait se passer en 2030, puis une double page montre l'état des lieux en 2020, avec des textes, des graphiques, etc. Une autre double page présente les réformes à accomplir pour arriver à la situation décrite au début. Et enfin, une bibliographie permet d'approfondir la question si on le souhaite. Donc, c'est pas un livre à lire de la première à la dernière page. Hein. C'est un livre ressource quand on veut s'informer sur une question. Il offre des perspectives, un horizon et suggère des mesures pour y arriver. Outre nourrir notre réflexion personnelle, un ou plusieurs chapitres peuvent servir de base de discussion lors de réunions publiques ou de réunions politiques. Il peut servir aussi de base à des ateliers de réflexion pour approfondir l'étude de certains sujets. Attac a d'ailleurs imaginé un kit proposant toutes sortes de pistes pour utiliser ce livre. On peut le commander sur le site d'Attac. Comme l'écrit Nolwenn Neveu, l'une des coordinatrices de l'ouvrage avec, entre autres, Dominique Plion et Annick Coupé,
il n'est pas un mode d'emploi de la Révolution, ni un programme à appliquer de A à Z. Il se veut une contribution à une dynamique, déjà en cours de discussion, de proposition et de construction d'un autre monde possible.
Bon, et je rappelle le titre de l'ouvrage, Manuel d'histoire du futur, publié par Attac France aux éditions de l'Atelier.
Tout ce que l'homme fut de grand, de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux. À Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents tourne la violence, Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de pâle, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se fond de la terre entre ces assassins que craignent les panthères, et l'on tremble à poignard quand leur main l'a touché. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés toujours des sauterelles, quoi le bagne toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, au cadavre jeté ce manteau de parole, le baillon pour la bouche et pour la main de clou. Un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Comme un oiseau sur la plus haute branche.
Bon, et maintenant, Louis-Claude, un aperçu des actions en cours ou qui sont prévues le mois qui vient, si tu veux.
Oui, et donc la fin du mois d'octobre et puis début novembre. Alors déjà, Kissicole offre, vous propose trois animations, si j'ose dire. D'abord, un récital de Dominique Kovacs qui chante des chansons d'amour et d'humour. Le samedi 24 octobre à 20h. Un autre thème, c'est celui des demandeurs d'asile à Bourges. Bon, on sait qu'il y a des migrants et des demandeurs d'asile qui viennent et vivent, essaient de vivre en France. Et qu'en est-il donc dans la cité dans laquelle nous vivons, hein? Qu'est-ce qui se passe dans le Berry? Ça, c'est le jeudi 29 octobre à 19h30. Et puis, une déambulation poétique autour de Gaston Coutet et Jacques Prévert. C'est une association qui peut paraître bizarre, mais il faut aller voir ce que c'est. C'est donc le vendredi 30 octobre à 20h. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu les lieux où ça se passait. Donc ça,
C'est à Quissicole. Quissicole, 88 rue d'Auron, en bas de la rue d'Auron. D'accord. Dans le bistrot associatif.
Ah ben, c'est donc dans le... ensuite, alors, on va revenir à d'autres activités. Le dimanche 25 octobre, là, c'est un peu plus loin, c'est chez Maxime Devrez et Anaïs Floquet à Loye-sur-Arnon, au Suchot. Ça démarre à 7h30 et c'est jusqu'à 18h. Il s'agit là de la fête de l'agriculture paysanne qui est organisée annuellement par la Confédération paysanne du Cher et l'ADR 18. Évidemment, Attaque 18 y tiendra un stand comme chaque année. Le mardi 3 novembre à 19h30, c'est le café Repère de Vierzon qui reprend du service et ça se passe à la salle municipale du Beffroi. Rue des Poteries, hein, c'est dans le quartier du tunnel Château, ça n'est plus à la J. Donc ici, Jean Sève, qui est le fils de Lucien Sève, vous en avez peut-être entendu parler aussi, présentera le livre « Capital Exit ou Catastrophe ?» point d'interrogation. Donc précisément, Lucien Sève a participé à la coécriture de ce livre. Et donc là, je crois qu'il s'agit de sortir du capitalisme, une nécessité particulièrement urgente, quand on sait ce qu'il en est, quand on sait que ça nous conduit à une double catastrophe, qu'elle soit écologique ou anthropologique. Et puis, donc, là, je vous ai déjà donné le programme de l'Antidote. Et donc, des dates, il y en a plein. Je crois qu'il faut aller sur leur site, c'est plus simple pour savoir tout ce qui va se passer dans la période qui vient.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 27 novembre entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des Associations, 28 rue Gambon-Bourges.
Nous avons écouté au cours de cette émission Idir dans La France des couleurs, Jolie Môme dans Adieu le 12 et Isabelle Aubray dans Un jour.
Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
Au revoir.